Radio France International.
De Paris, RFI,
$30.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Ravi de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de Radio France Internationale. Ce soir, c'est avec vous, Ligia Anjos.
Bonne nuit.
De la rédaction lusophone concernant la campagne pour les élections présidentielles au Cap-Vert. Tan Atran, de la rédaction vietnamienne.
Tan Chao, Philippe.
Pour nous parler du déconfinement au Vietnam, justement. Et puis, pour la rédaction en espagnol, c'est Asbel Lopez.
Hola.
Qui nous parlera de ces migrants haïtiens qui veulent entrer aux États-Unis et au Chili, ou au Chili, mais qui y sont maltraités. Ce qui fait tout d'abord la une de l'actualité, c'est cette page politique qui se tourne en Allemagne. Après 16 ans passés à la chancellerie, Angela Merkel va donc quitter le pouvoir. Les élections législatives se sont terminées par l'annonce lundi de la défaite de son parti conservateur, de très peu certes, au profit des sociaux-démocrates. Alors, Ligia Anjos, les sociaux-démocrates, le SPD, remportent ce scrutin d'une courte tête et Angela Merkel laisse derrière elle un pays politiquement morcelé. Personne ne sait d'ailleurs encore à quoi va ressembler le prochain gouvernement.
Exactement, Philippe. L'Allemagne a voté, annonçait lundi le quotidien Die Welt, après une journée dédiée aux élections législatives de dimanche dernier. Plus de 76% des électeurs se sont rendus aux urnes pour désigner leurs députés et décider de l'avenir du pays après le départ de Angela Merkel. Quel gouvernement verra le jour après le départ de la chancelière? Cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de possibilités, nous a raconté la spécialiste en questions internationales. Ilene Ferro-Gouveille. Depuis plusieurs semaines, les sociaux-démocrates du SPD avaient l'avantage face aux conservateurs de la CDU-CSU, dont le candidat phare, le ministre président de Rhénanie de Nord-Westphalie, Armin Laschet, était critiqué par sa gestion des inondations qui ont touché sa région cet été.
Donc l'écart est très serré, on l'a dit, les Allemands peuvent dire donc au revoir aux grandes coalitions, ça a été une tradition dans la vie politique allemande.
La future coalition gouvernementale sera composée d'au moins trois partis. Et oui, Philippe, les Allemands peuvent dire au revoir aux grandes coalitions de l'ère Merkel. La formation du prochain gouvernement allemand sera vraisemblablement plus complexe. Hypothèse d'une coalition tricolore est une certitude comme nous dit Ilene Ferro-Gouveille, une spécialiste, comme je disais, des questions internationales au Portugal, qui a vécu de longues années en Allemagne.
Qualquer uma das coligações, que seja com a CDU-CSU, seja com o SPD, vai depender de verdes e liberais. Por isso é que este período será muito interessante.
Alors, quelle est son analyse?
Elle nous dit que toutes les coalitions, soit avec la CDU, soit avec le SPD, vont dépendre toujours des verts et des libéraux. Et donc, les prochains temps seront extrêmement intéressants, car au-delà du chancelier, il y aura d'autres fonctions très importantes, notamment le poste du ministère des Affaires étrangères, qui notamment est sous tutelle du parti minoritaire d'habitude, comme était le cas de la CDU, qui était le parti le plus fort. Le ministre des Affaires étrangères était du SPD. Et quand le SPD était au pouvoir, le ministre des Affaires étrangères était du parti des Verts. Donc le poste du ministère des Affaires étrangères est très important, mais aussi celui des Finances. Donc les sociaux-démocrates ont presque toujours occupé le ministère des Finances, mais cette fois-ci, les libéraux réinvidiquent ce poste. Et ces deux postes vont déterminer la coalition entre les Verts et les libéraux. Devoir alors choisir incontournable, les Verts et les libéraux endossent donc désormais le rôle de faiseur de roi.
Asbel Lopez, la constitution de ce nouveau gouvernement peut donc prendre encore du temps. Les partis politiques allemands devraient être fixés d'ici mi-octobre, c'est-à-dire dans 15 jours, sur les modalités des pourparlers en vue de la formation de cette coalition.
En effet, la question est si les sociaux-démocrates seront capables d'attirer les libéraux de la FDP. Pour l'instant, ce n'est pas sûr, dans la mesure où les libéraux sont contre tout rétablissement de l'impôt sur les grandes fortunes préconisé par les Verts, mais aussi par le SPD. Le conservateur Laschet a peut-être une carte à jouer.
Oui, Armin Laschet est bien seul, malgré tout, car il a contre lui certains membres de son propre camp.
Eh oui, c'est vrai, mais est-ce qu'il va tomber à nouveau sur ses pattes, comme c'est souvent le cas avec Laschet? En tout cas, pour l'instant, le conservateur ne fait que suivre la logique du système allemand, car la victoire de Scholz n'est pas non plus mirobolante. 1,5 point d'avantage. Le politologue Ignacio Molina a rappelé dans la presse espagnole qu'en Allemagne, l'agenda du gouvernement est déterminé par des accords post-électoraux très détaillés, fruit des tractations qui peuvent prendre des mois et des mois. Et à ce propos, Molina fait la différence entre une première et une deuxième période durant les 16 années de pouvoir de Merkel. Il y aurait une sorte de Merkel 1 et Merkel 2.
C'est-à-dire ?
Merkel 1, les premières années de la chancelière ont été marquées, selon lui, par 3 points négatifs. L'inertie du passé, le fait de se plier toujours au plus petit dénominateur commun et le suivisme des sondages. Cela résulte, selon ce membre de think tank Real Instituto Elcano, du fait que le chef du gouvernement allemand doit diriger un exécutif composé de plusieurs partis et où l'opinion publique est très réticente à l'hyper-leadership.
Alors ça, c'est Merkel 1, Merkel 2, la chancelière va laisser le pouvoir avec une très bonne image. Comment est-ce qu'elle a réussi d'ailleurs à imprimer tout cela de son empreinte ?
Oui, parce qu'elle a réussi à asseoir sa position. Elle a su en profiter d'un long mandat, d'ailleurs depuis 1949, les chanceliers allemands restent au pouvoir en moyenne 9 ans. Et surtout, toujours selon Ignacio Molina, elle a su profiter du grand poids objectif du pays sur le continent et dans la mondialisation. Le système allemand permet à leurs dirigeants de devenir le leader occidental capable de prendre les mesures les plus solides et les plus durables. Voilà ce qui explique pour Molina le bilan positif de Merkel. La question est bien sûr si le prochain chancelier allemand sera à la hauteur des défis, qui sont immenses. Les sombres projections démographiques, la préservation de la convivence dans un pays multiculturel, ainsi que la tentation du populisme anti-immigration.
En tout cas, un des enseignements de ce scrutin, Sbe Lopez, c'est que la démocratie allemande fonctionne bien.
Oui, parce que certains peuvent être étonnés par la situation actuelle, car cette grande démocratie européenne ne connaît pas encore le nom de celui qui va diriger le pays. Or, les résultats de les scrutins sont tombés il y a plusieurs jours. Cette situation risque de se prolonger encore quelques jours, voire quelques semaines. Il y a encore 2 prétendants pour un seul poste.
Ouais.
C'est pour cela que je souhaite vous lire ce que dit le journal El País. Malgré les extrêmes, c'est-à-dire mis à part les 10,3% pour l'extrême droite, cette Allemagne européenne et pro-européenne est bien celle que souhaitait l'écrivain Thomas Mann, écrit le journal basé à Madrid. L'auteur de La Montagne Magique abhorrait Hitler et fouillait l'Europe allemande dont il rêvait lui-même dans sa jeunesse, devenue ensuite une horreur totalitaire. Il ne reste plus qu'à traduire les programmes en politique. C'est ce que nous, Européens, attendons de ces dirigeants réticents, ajoute El País. Il faut juste être patient car c'est l'heure des alliances.
L'Europe, justement, plus largement la politique étrangère des 16 années de l'ère Merkel, Tana Trane. Angela Merkel, la chancelière, était une interlocutrice privilégiée des 3 puissances que sont la Russie, la Chine et les États-Unis.
Oui, d'abord, avec la Russie de Vladimir Poutine, un rapide rappel en 16 ans de pouvoir, la chancelière a effectué 20 visites officielles en Russie, issues de l'Allemagne de l'Est, donc l'ex-Allemagne de l'Est, et maîtrisant très bien le russe. De même que le président Poutine pratique la langue de Goethe, la chancelière a des atouts dans ses discussions avec le maître du Kremlin. Et justement, la presse moscovite souligne que les contacts privilégiés entre Angela Merkel et Vladimir Poutine ont toujours sauvé les relations entre les deux pays, car Berlin et Moscou ont des convergences d'intérêts, notamment sur le gazoduc Nord Stream 2, mais ils ont aussi beaucoup de désaccords.
Il est long, en tout cas, ce gazoduc de 1200 km. Il relie un terminal gazier situé dans la région de Saint-Pétersbourg, en Russie, à Lubmine, qui est dans le nord-est de l'Allemagne. Les tuyaux sont posés à environ 100 mètres de profondeur et ils servent à acheminer le gaz russe donc vers l'Europe.
Oui, mais c'est également un gazoduc de la discorde et hautement géopolitique. D'abord parce que le gaz acheminé par le pipeline passe par la mer Baltique, comme vous venez de le dire, contourne donc l'Ukraine, ce qui représente un manque à gagner de l'ordre de 2 à 3 milliards de dollars par an pour Kiev. Ensuite, le gaz russe vient concurrencer directement le gaz de schiste américain. Or, les États-Unis sont un partenaire primordial pour l'Allemagne à plus d'un titre. Mais d'abord, revenons aux relations Merkel-Poutine. Les deux dirigeants se connaissent très bien. Pour autant, ils ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Ils sont certainement les partenaires, mais aussi des adversaires.
Oui, les tensions ne manquent pas entre Berlin et Moscou. On se souvient que l'Allemagne a accueilli et soigné Alexei Navalny, c'est-à-dire le principal adversaire politique de Vladimir Poutine, empoisonné par les services secrets russes.
Oui, et puis il y a aussi le dossier Crimée en Ukraine. Ce sont les exemples les plus flagrants de leur désaccord. Autre sujet de discorde également, les cyberattaques russes lancées à de nombreuses reprises à l'encontre de Berlin ou bien le meurtre d'un opposant tchétchène en 2019 au cœur de la capitale allemande.
Autre chose avec la Chine, Pékin a été le partenaire clé, hein, un partenaire clé pour l'Allemagne d'Angela Merkel sur le plan économique.
Oui, on se souvient tous que c'est sous la présidence tournante de l'Union européenne de Mme Merkel que Bruxelles et la Chine se sont parvenus le 30 décembre l'année dernière à un traité d'investissement global. Bien que ce texte, depuis, reste lettre morte sous les coups de sanctions diplomatiques réciproques, nombreuses ont été les critiques allant contre de Mme Merkel sur ce coup de force. La Chine est le troisième marché des exportations allemandes et cela explique donc les 12 voyages de la chancelière en Chine. Et puis, parmi les pays européens, l'Allemagne est le premier partenaire commercial de la République populaire de Chine.
Ce tableau idyllique n'est pas sans ombre, Tanatran.
Oui, il y a quand même des méfiances. À partir du milieu des années 2010, les milieux économiques et politiques allemands comprennent que, contrairement à leurs attentes, l'augmentation des échanges, des investissements directs en Chine et les transferts technologiques n'aboutissent pas forcément à une ouverture chinoise ni à des conditions plus équitables pour les entreprises allemandes. Au contraire, en plus, en 2015, quand la Chine met en place sa stratégie Made in China 2025, on comprend très vite que la Chine va devenir un concurrent redoutable pour l'Allemagne.
Voilà donc pour la Russie, pour la Chine. Qu'en est-il des États-Unis ? Angela Merkel a connu pas moins de 4 présidents et le ministre américain des Affaires étrangères n'a pas hésité à qualifier l'Allemagne de meilleur ami des États-Unis.
On sait que d'un point de vue stratégique, l'Allemagne dépend des États-Unis. Et oui, et puis la hache de guerre sous Donald Trump semble enterrée par l'administration Biden. En effet, Donald Trump, qui pendant sa présidence a multiplié les attaques personnelles contre Mme Merkel, il avait aussi décidé de retirer donc les troupes américaines dans le pays au profit de la Pologne. Et puis Washington, sous Biden, a lâché du lest sur le plus gros des contentieux qui est le gazoduc Nord Stream 2 dont on venait d'évoquer. En échange, les États-Unis veulent convaincre Berlin d'adopter une ligne dure avec Moscou et Pékin. Joe Biden a besoin d'Angela Merkel, comme disent les observateurs, et Washington aimerait que la chancelière, que la première économie européenne, mette en sourdine ses intérêts commerciaux au profit d'une attitude diplomatique plus agressive. Mais là, rien ne dit que le successeur de Mme Merkel adoptera une ligne différente que celle de la chancelière.
Et bien évidemment, sur RFI, quelles que soient les antennes, il sera question du nouveau gouvernement allemand quand il sera bien évidemment connu.
20
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
L'actualité vue par les rédactions langues étrangères de RFI, rédaction vietnamienne, hispanophone et lusophone aujourd'hui. Je reviens vers vous, Tana Tran, de la rédaction vietnamienne, car certains Vietnamiens ont pu respirer plus facilement aujourd'hui, en tout cas ceux habitant Ho Chi Minh Ville. Faisons un point sur la situation sanitaire au Vietnam, puisqu'il s'agit bien évidemment du Covid et du début de la fin de l'épidémie.
Oui, après plus d'un an avoir maintenu la pandémie sous contrôle, la situation au Vietnam a déraillé à partir du mois de fin avril, début mai cette année. Aux dernières nouvelles, ce pays enregistre encore plus de 11 000 nouveaux cas de coronavirus par jour. Début mai, le Vietnam comptait 5 morts depuis janvier 2020. Et puis, au 30 septembre, ce chiffre s'élève à 19 000. Immédiatement, les autorités vietnamiennes ont mis en place des mesures de distanciation sociale, puis de confinement, d'abord dans les provinces où ils ont détecté les clusters, puis généralisés dans d'autres grandes villes, notamment à la capitale, Hanoï, et à Saigon, le poumon économique de ce pays. Et il y a quelques jours, les mesures de confinement ont été levées à Hanoï et aujourd'hui, les habitants de Saigon respirent. Je vous propose d'écouter un témoignage de un de nos auditeurs, Lê Hồng Phước, un habitant de Saigon.
Nhưng mà bữa nay là ngày đầu tiên đi ra ngoài đường, cũng giống như mọi người, sau 4 tháng cảm giác nó lạ lắm. Tôi chạy ngoài đường mà tôi cứ lẩm bẩm một mình, nó sự sống.
Donc cet homme habite Saigon, Ho Chi Minh Ville, hein, c'est la même chose. Et qu'est-ce qu'il vous a raconté ?
Alors, il dit « Je sors pour la première fois depuis près de 4 mois enfermé à la maison. L'ambiance est étrange. Dans ma tête, je ne cesse de me répéter « Oh, la vie !» La ville retrouve sa vie, son rythme, mais avec une certaine distanciation. Il y a beaucoup de monde dans la rue. Dans la joie se lit également sur le visage, les visages masqués, bien entendu, les gens. Les restaurants sont rouverts, mais uniquement pour les ventes à emporter. Les salons de coiffure reçoivent à nouveau le client. Les marchés ouvrent également, mais avec des mesures de contrôle assez sévères.
Donc au Vietnam, le déconfinement s'effectue de façon progressive, d'ailleurs comme un peu partout dans le monde. Cela dit, la situation est contrastée.
Oui, comme je vous disais, il y a encore 11 000 nouveaux cas par jour, donc forcément, on prend des choses très au sérieux. Mais je rappelle que Ho Chi Minh Ville, anciennement Saigon, est le cœur économique financier du Vietnam. Les dernières semaines de confinement ont pesé lourdement sur la croissance nationale. Selon les chiffres officiels, le PIB a chuté de 6,7% au troisième trimestre sous l'effet de la pandémie. Et j'attire également votre attention sur le fait que, à la différence du coûte que coûte de la France, les entreprises au Vietnam n'ont pas été tenues à bout de bras par le gouvernement. Les travailleurs ne bénéficient pas des allocations comme en France, sans parler des dizaines de milliers de travailleurs clandestins. Ce qui veut dire que la décision de confiner une métropole comme Saigon est lourde de conséquences économiques, mais également sociales. Alors, écoutons notre invité, Chung Hữu Khanh, ancien chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Nhi Đồng Một. Pour lui, le souci principal est tout faire pour éviter un nouveau reconfinement.
Hiện nay, ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại là dịch ngừa mũi 1 cũng khá là cao, cũng phải là 80% rồi đó. Rồi cái mũi 2 thì cũng đã khoảng 30% rồi.
Donc il s'y connaît en maladies infectieuses et il vous parle du Covid.
Oui, Indy nous dit qu'actuellement à Ho Chi Minh Ville, le taux de vaccination pour les premières doses est assez élevé, autour de 80% pour les plus de 18 ans et 30% pour le schéma vaccinal complet. On n'a pas d'autre choix que de rouvrir les activités. Pour les autorités, il s'agit d'un déconfinement progressif. On procède par catégorie de corps de métier, par quartier, tout en ayant un calendrier, mais surtout en ayant un œil sur les nouveaux cas, sur l'évolution de la pandémie, sur la pression sur les hôpitaux. S'il y a réouverture des activités et qu'il n'y a pas de nouvelle explosion des cas, il n'y a rien à dire, ce sera parfait.
Donc un déconfinement progressif au Vietnam, c'était Tan Atran de la rédaction vietnamienne de RFI. Venons-en à vous, Asbel Lopez. Vous allez évoquer deux drames de l'immigration dans le continent américain. Le premier concerne les Haïtiens qui veulent entrer aux États-Unis. Et puis le deuxième, ce sont ces Vénézuéliens qui veulent rentrer, eux, au Chili. Haïtiens et Vénézuéliens, et pas Haïtiens comme dans les deux cas, comme je l'ai dit tout à l'heure dans les titres.
Vous avez peut-être vu les images d'un garde frontière à cheval qui attrape un migrant haïtien par son t-shirt sur la rive américaine du Rio Grande, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, près du village frontalier del Rio. Sur un autre cliché, le garde frontière tient un groupe d'Haïtiens à distance en faisant tourner sa reine dans une posture menaçante pour les forcer à rebrousser chemin. Le président Biden a promis que le policier photographié allait payer pour ses actes qu'il a qualifiés de scandaleux.
Oui, d'autant que ces photos ont fait le tour du monde et elles ont suscité un vif émoi, pas que du président américain.
Oui, parce que certains y ont vu des migrants assimilés à du bétail, d'autres ont rappelé les mauvais traitements subis par des Afro-Américains dans le passé, de la part de la police montée, des gardiens de prison ou même des propriétaires d'esclaves. Au total, 30 000 migrants, pour la plupart haïtiens, étaient arrivés à Del Rio, Texas. Un peu plus de 12 000 ont été relâchés après leur traversée de la frontière mexicaine. Beaucoup d'autres, retenus après leur passage illégal, pourraient aussi être relâchés.
Il y a aussi des déportations, dans le sens premier du terme, en masse de ressortissants haïtiens.
Oui, environ 2000 personnes ont été expulsées par avion vers Haïti. 8000 sont retournées volontairement au Mexique, 5000 ont été transférées dans des centres d'hébergement et 12400 ont pu quitter le site et devront se présenter à un juge de l'immigration pour défendre leur demande d'asile. Mais je voudrais attirer l'attention de vos auditeurs, Philippe, sur une étape particulièrement difficile du périple des Haïtiens, le passage du tapon del Darién, le bouchon du Darién.
C'est quoi ?
Il s'agit d'une zone de marais et de forêt à la frontière entre la Colombie et le Panama, 160 km de long et 50 km de large.
Et le tout sans aucune infrastructure, pas de route, à rien.
Et oui, c'est le dernier maillon inachevé de la route panaméricaine, la Ruta Panamericana, qui doit relier l'Alaska et la Patagonie, les trois Amériques, nord, sud et centre. C'est surtout une zone dangereuse pour des migrants qui partent avec femmes et enfants. À ce sujet, nous avons interviewé Saïd Herrera, journaliste d'une radio partenaire de RFI au Panama, KW Continente.
Ellos corren un riesgo bastante grande al cruzar la selva del Darién. El territorio panameño, la selva darienita entre Panama y Colombia.
Elle dit précisément ce que c'est que ce tapón del Darién.
Et en effet, elle rappelle que le tapón del Darién est une forêt primaire et on y trouve tous les risques propres à la jungle, mais aussi une grande violence. Récemment, les autorités panaméennes ont trouvé 10 cadavres dans la forêt et ils sont en train de mener les enquêtes, nous dit aussi Saïd Herrera. Ni l'armée ni la police colombienne ne sont présentes dans la zone. C'est le clan du Golfe qui est réputé tout contrôler. El Clan del Golfo, c'est le plus grand gang de narcotrafiquants de la Colombie. Des journalistes sur place ont pu constater que les guides qui accompagnent les migrants haïtiens disent ne pas appartenir à ce groupe criminel. Ils reconnaissent pourtant travailler avec son accord en échange d'une sorte d'impôt. C'est donc à ce genre de danger qu'ils s'exposent les migrants avec leur famille.
Asbel Lopez, il faut également parler de cette agression de migrants. Ça se passe au Chili, en Amérique du Sud donc.
Oui, en effet, c'est dans le village d'Iquique, au nord du Chili, des migrants, surtout des nationalités vénézuéliennes, ont été attaqués lors d'une manifestation de quelques 3000 personnes. Les manifestants ont brûlé les affaires des migrants qui vivaient dans la rue, tout en criant des propos xénophobes. La veille, la police avait délogé des centaines de migrants vénézuéliens qui campaient depuis un an dans une place de Iquique. Le président Sébastien Piñera a condamné l'agression qu'il a qualifiée de brutale. La justice a ouvert une enquête. Notre collègue Nathalie Olivares a interviewé José Miguel García, le gouverneur de la région de Tarapacá, sur ces événements.
Este gobierno no tiene una política migratoria ni una estrategia migratoria hoy. No sabemos qué quiere hacer con los ciudadanos migrantes que tenemos. No tenemos identificado.
Alors, qu'a-t-il dit José Miguel García, Natalia Olivares, qui vient régulièrement d'ailleurs dans l'Accent du Monde?
Oui, en effet. Donc, il est très critique vis-à-vis de la gestion de la crise des migrants par le gouvernement. Selon lui, le gouvernement chilien n'a pas de politique migratoire. Les Chiliens ne savent pas qu'est-ce qu'ils souhaitent faire avec les migrants. Que va-t-il faire pour les accompagner à moyen terme, à long terme? Quelles sont les mesures concrètes qu'il compte prendre pour les intégrer? Le gouverneur José Miguel Carvajal estime que le responsable de la violence contre les migrants, c'est le propre président Sébastien Piñera, en raison de son inaction face à la crise migratoire et l'émergence humanitaire. Disons pour finir, Philippe, que l'attaque contre les migrants a été vivement condamnée par l'ONU, l'UNICEF et l'ACNUR.
L'ACNUR, c'est quoi? L'ACNUR,
c'est l'ACNUR de l'ONU.
Oui, non, mais c'est évident pour vous, mais pas forcément pour nous. Asbel Lopez, de la rédaction en espagnol de Radio France Internationale. Pour les élections présidentielles, la campagne électorale bat son plein en ce moment au Cap-Vert. Le scrutin aura lieu le 17 octobre. Il opposera 7 candidats. Ligia Anjos de la rédaction en portugais. C'est la première fois que l'archipel enregistre autant de candidats officiels à la présidence de la République. 7, donc, contre 4 jusqu'à présent, que ce soit en 2001 ou en 2011.
Exactement. Pour la première fois, 7 candidats et la campagne électorale pour ces élections du 17 octobre a démarré hier, jeudi, avec des actions des 7 candidats. En Lens, pour le palais du Plateau, pour choisir les principaux centres urbains de contact avec les électeurs, notamment à Mindelo et Praia. L'ancien chef du gouvernement, Carlos Veiga, soutenu par le MPD au pouvoir et lucide, a déjà fait une promenade dans la plage de Gamboi, au port de la ville de Praia, où il s'est entretenu avec des pêcheurs. Aussi, ancien Premier ministre José Maria Neves, soutenu par l'opposition PAI-CV, était hier soir à São Vicente, où il était attendu pour un rassemblement dans le quartier de Monte Sossego. Les candidats formés en droit, Hélio Sanches, Casimiro de Pina, mènent campagne dans l'île de Santiago, et les trois autres candidats, le docteur Gilson Alves, médecin, l'ingénieur naval Fernando Roche et le professeur Joaquim Monteiro, effectuent des contacts de porte à porte avec des électeurs de São Vicente. La présidente de la Commission électorale nationale de Cap-Vert, Maria de Rosário Gonçalves, demande aux candidats que les discours s'organisent autour de propositions et idées.
Que o discurso seja um discurso também elevado e, sobretudo, centrado nas propostas e nas ideias. E que seja um
que dit-elle, Ligia Anjos?
Alors, la présidente de la CNE dit que les discours pendant la campagne doivent être centrés sur des propositions et des idées. Ces discours éclairent pour les électeurs qui seront appelés à voter dans 3 semaines, le 17 octobre. Mercredi soir, 6 des 7 candidats à la présidentielle ont participé au débat de radio et télévision publique. Pendant 2h30 de débat, les candidats ont partagé leur point de vue sur plusieurs sujets tels que la justice, l'impartialité dans l'administration publique, l'indépendance de l'exercice de la présidence, notamment. Selon la liste électorale, il y a près de 400 000 électeurs inscrits pour voter, 350 000 électeurs au Cap-Vert et 56 000 à l'étranger.
Et le scrutin aura donc lieu maintenant dans 15 jours au Cap-Vert. Autre chose, Ligia, la parution d'un livre dont le titre est « Carnet de mémoire coloniale ». Il est écrit par Isabella Figueiredo, une écrivaine portugaise qui est d'ailleurs nommée pour le prix Femina étranger 2021 ici en France. Dites-nous en plus.
Isabella Figueiredo est née à Lourenço Marques, actuelle Maputo, la capitale du Moçambique. En 75, elle a 12 ans alors, et cette jeune fille s'apprête à s'envoler seule vers le Portugal comme des centaines de milliers de retournables. Elle va dans le pays de ses parents où elle-même n'est pas née, retrouver ses grands-parents qu'elle ne connaît pas. Autour d'elle, ses proches lui font promettre de raconter leur histoire, comment ils ont construit puis tout perdu pendant la guerre d'indépendance du Mozambique entre 64 et 74. Comment certains d'entre eux ont été massacrés par des révolutionnaires. Isabel Figueiredo n'a que 12 ans, mais elle sait qu'un jour, elle va écrire sa vérité, l'envers de l'histoire que personne n'ose raconter.
Foi difícil, mas foi necessário. Era mesmo necessário. Eu tinha de escrever este livro assim com primeira urgência primeira. Portanto, foi difícil.
Que explique-t-elle?
Elle nous dit qu'elle raconte que l'écriture a été très difficile, mais nécessaire. Elle a écrit ce livre dans l'urgence car elle voulait se confronter à la mémoire de son père. Toute son enfance, elle a écouté et observé les liens, les siens, avec une attention particulière pour son père, un électricien raciste et machiste portugais, tour à tour sensuel et colérique, généreux et cruel avec ses ouvriers noirs et ses femmes locales. Les lecteurs disent à Isabel Figueiredo que c'est un livre de trahison par rapport à son père, mais l'écrivaine nous dit que c'est une lettre d'amour à son père qui est décédé mais qui continue à vivre en elle. Elle adore et le déteste en même temps. Ce récit biographique est le premier livre de cette journaliste qui raconte avec lucidité et dans une langue belle et brutale les déchirements d'une enfance au temps du colonialisme.
Peut-on parler d'un règlement de compte justement avec le passé colonial du Portugal?
Quand il s'agit du colonialisme, beaucoup de gens ne veulent pas s'exprimer, admet l'écrivaine, et personne au Portugal ne raconte l'histoire des Portugais colonisateurs.
Neste caso colonial, muitas pessoas não querem ter voz.
Au Portugal, on ne veut pas parler du passé colonial. C'est un sujet très difficile à accepter car notre estime de nous-mêmes, notre estime portugaise est très liée à la gloire des découvertes et non à la patrie sobre des découvertes, comme nous a expliqué Isabelle Figueiredo.
Et donc, elle est en concours pour le prix Femina en cet automne. Mais c'était Lydia Anjos de RFI. Merci d'avoir écouté Accent du Monde ce soir. L'Afrozouk.